Est-ce que Pâques 2017 va bien ? Non, 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 non. Je répète, est-ce que Pâques 2017 va bien ? Ah, je préfère. Vous savez, moi, je suis haïtien d'origine. Oh ! Je suis né en Amérique latine. Ah ! Et j'ai grandi à Paris. Alors, juste une petite annonce avant de commencer. Il est où, Franck ? Il est quelque part ? Franck, tu m'as mis en galère. Il a prêché sur tout ce que je voulais dire. Donc, la prochaine fois, Pierre, si tu veux m'inviter, je passe avant Franck. Comme ça, je verrai sa tête en galère une fois que je serai passé. Non, moi, je suis vraiment heureux de pouvoir être là parmi vous. Moi, j'ai participé aussi à Pâques 2010, Pâques 2014 et maintenant Pâques 2017. Et c'est un moment extra. Un moment où vous allez faire des rencontres super, vous allez entendre des orateurs extraordinaires. Et moi, je me souviens d'un jeune que j'ai rencontré qui m'a cassé les pieds. J'étais responsable de bunker. Alors, vous savez, responsable de bunker, c'est celui qui arrive en premier et qui repart en dernier. C'est celui qui s'assure qu'il n'y a personne de caché quelque part le matin parce qu'il n'a pas envie d'y retourner. Et moi, je me souviens de ce jeune qui... est arrivé en retard le premier soir, et il arrive. Alors moi, j'attends d'aller me coucher, mais je ne peux pas puisque je suis responsable. Et il arrive en me disant, au fait, les serviettes et le couchage, c'est où ? Et je lui dis, non mais tu te crois à l'hôtel là ? Non mais sérieusement, t'es venu sans tes affaires ? Ben non, moi j'ai juste mon sac à dos, j'ai de quoi écrire, et puis j'ai mes vêtements qui sont là quoi. T'as pas lu les mails ? Non, je ne les lis pas les mails. Pâques, à Genève, bunker, ça t'a pas dit quelque chose ? Et donc on se met en quatre pour lui trouver un sac de couchage, pour lui trouver des serviettes et tout le toutim. Enfin, je peux aller me coucher. Le lendemain, je réveille tout le monde. Mais alors je réveille tout le monde en disant « C'est l'heure, j'ai mon petit déjeuner qui m'attend, dépêchez-vous !» Tout le monde se lève, tout le monde se dépêche, se lave, etc. Tout le monde part, c'est bon, je vais enfin pouvoir y aller. Mais je fais mon travail sérieusement. Je vérifie quand même s'il n'y en a pas un qui se cache quelque part. Alors je fais le tour des différents endroits, je mets ma main au-dessus. Vous savez comment c'est dans les bunkers, vous avez des lits superposés. Bon, je suis un peu trop feignant, je ne voulais pas regarder en haut, alors je passe comme ça. Et à un moment donné, je tombe sur des pieds. Je regarde, je me dis non, c'est pas possible. À votre avis, c'était qui ? Le même gars. Je lui dis, mais mon gars, t'as pas vu qu'il y avait quelque... Enfin, j'ai appelé, etc. Tous tes copains, ils sont partis. Oh, est-ce que tu peux me donner 10 minutes, s'il te plaît ? C'est véridique, hein, tout ce que je vous dis. Je lui dis, maintenant tu te dépêches. Moi, j'ai besoin d'y aller. Dépêche-toi. Ah, mais est-ce que je peux prendre ma douche ? Non, tu prendras ta douche ailleurs. De toute façon, tu n'as pas d'affaires. Tu prends tout dans ton sac et tu vas dans la voiture. Il est monté dans la voiture en caleçon. Manque de bol. Le petit déjeuner était déjà passé. Oui, je sais. Pour moi, le petit déjeuner, c'est sacré. C'est sacré. Et je me souviens du dernier jour où il est venu me dire au revoir. Et moi, c'était bon débarras. Vous savez ce qui s'est passé 6 mois plus tard ? 6 mois plus tard, je commence un nouveau stage en tant que pasteur. Attendez. Je mets mes plus beaux vêtements parce que c'est mon premier dimanche et je veux accueillir les gens. Alors je suis à l'entrée de l'église. Bonjour, enchanté, je suis le pasteur stagiaire. Bonjour, enchanté, je suis le pasteur stagiaire, je m'appelle Harry. Et là, au loin... Je vois ce gars grand et nonchalant commencer à s'approcher. Et là, d'un seul coup, j'ai un souvenir qui me revient. Et en fait, vous ne savez pas encore ce que vous dites, ça, ce n'était pas un bon souvenir. Et là, d'un seul coup, vous voyez le visage et il arrive en disant, « Je te connais, toi ! T'es le gars de l'hôtel !» Depuis ce jour, je suis ce jeune. On se voit tous les mardis. Et je l'accompagne dans son cheminement avec Dieu. En fait, c'est une rencontre qui était inattendue, qui a débouché sur quelque chose d'extraordinaire, sur une véritable relation. Et aujourd'hui, j'ai vraiment ce plaisir de pouvoir le connaître et de l'accompagner pour qu'il puisse apprendre à connaître Jésus-Christ. Moi, je vais vous parler d'une autre histoire et d'une autre rencontre encore plus extraordinaire. Une histoire où jamais on n'aurait parié un copec sur cette rencontre et sur les suites qui allaient l'accompagner. Si vous avez votre Bible, je vous invite à prendre l'évangile de Marc, au chapitre 2. Et on va lire des versets 13 au verset 17. Marc, alors si vous avez la même Bible que moi à 1,50€, ce sera à la page 644. Seigneur, aide-nous et montre-nous la beauté de ta parole afin que nous puissions apprendre à mieux te connaître. Amen. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, les spécialistes de la loi, les pharisiens, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Jusqu'ici, la parole de l'Éternel. Il faut remettre les choses dans le contexte. Lorsqu'on voit cette histoire, on se dit, là, il y a une superbe rencontre qui est en train de se faire entre Jésus et ce Lévi. Mais Lévi, ce n'est pas n'importe qui. Lévi, comme le texte nous le dit, c'est un collecteur d'impôts. Aujourd'hui, si on devait trouver l'équivalent, ce serait peut-être un huissier de justice. Alors moi, je comprends parfaitement ce que Lévi a pu vivre, parce que, avant d'être pasteur, j'étais clerc d'huissier. Et vous savez, c'est le genre de boulot où personne n'a envie de vous voir. Non mais sérieusement, une fois, on m'a envoyé dans un camp de gitans pour faire des constats, on m'a lâché les chiens. Voilà, c'est ça la vie du huissier de justice. En fait, on ne vous aime pas. Et Lévi, c'est pire que ça. Lévi, c'est un traître pour la nation juive. Parce qu'il collecte l'impôt, non pas pour son propre peuple, mais pour les Romains. Il prend l'argent de ses propres compatriotes pour le compte des Romains. Le collecteur d'impôts, c'est un menteur, un tricheur, un voleur, un blasphémateur, un arnaqueur, un sans-cœur. Waouh, je pourrais faire une chanson là. En fait, c'est un traître. C'est un collabo à l'époque de l'occupation nazie en France. C'est un gars qui a acheté le droit de collecter l'impôt à une vente aux enchères. En fait, c'était pas stupide quelque part, parce que c'était un super business. Hein. Vous avez le pouvoir politique, vous avez le pouvoir militaire, en fait, personne ne peut venir vous embêter. Les gens ne peuvent pas aller sur Internet pour dire « Est-ce que ce qui m'a pris, c'était le montant que je vais vraiment payer ?» ou Impossible de se plaindre, Twitter, ça n'existe pas à l'époque. Hein. Non, parce que ma femme, c'est une spécialiste de Twitter. Dès qu'il y a quelque chose qui la gave, c'est la première à dégainer et à dire « Nya, 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 nya. » Non mais c'est fou, et elle arrive à obtenir gain de cause. Hier soir, elle m'a envoyé un SMS pour me dire que Kickers va nous envoyer une paire de chaussures neuves pour notre fils, parce que les dernières, elles ont duré 2 semaines. Non, c'est véridique. En fait, vous n'avez aucun moyen de pouvoir vous plaindre. Aucun moyen de pouvoir dire « mais je veux que mes droits soient respectés ». Impossibilité de le faire. L'huissier, le collecteur d'impôts peut faire absolument tout ce qu'il veut. Et il est détesté pour ça. Il ne peut pas aller au temple pour faire un don. Ce serait quand même un peu bizarre de prendre l'argent du prêtre pour ensuite l'amener et faire une offrande. Non, il ne peut pas. Impossibilité pour lui de témoigner lors d'un procès parce que sa parole ne vaut rien. Et pourtant, là, ce qu'on voit, c'est une rencontre de fous. La dernière personne qu'on verrait voir écouter et suivre Jésus, c'est Lévi. Et la dernière personne qu'on verrait s'adresser à Lévi, c'est Jésus. En fait, Jésus nous montre qu'il est venu appeler des personnes qui mènent une vie qui l'honore absolument pas. Des pécheurs, des gens qui ne suivent pas la volonté de Dieu dans leur vie, qui suivent la leur. Et Jésus est en train de montrer, moi je veux appeler tous les hommes à moi. Waouh ! Jésus, ce gars que toutes les foules veulent suivre, que toutes les foules veulent écouter, celui qui a plein de paroles d'amour, de grâce, de sagesse, celui qui semble si sage, il veut de moi. Il veut que je le suive. Il veut que je connaisse. Il veut que j'apprenne à le connaître. Et Jésus, au travers de deux mots, est en train de redonner à cet homme qui n'a plus de vie sociale, il est en train de lui redonner une humanité, une identité, du respect, de l'attention, et plus que tout, de l'espoir. Il y a une histoire que j'aime particulièrement. Je ne sais pas si vous aimez l'art. Moi, j'apprécie d'aller dans les musées, et il y a une œuvre que j'aime particulièrement. C'est le David de Michel-Ange. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais elle est juste magnifique. En fait, en 1461, on a réussi à trouver un bloc de marbre blanc de Carrare. En fait, c'est juste un matériau hyper rare, hyper précieux. Et en tant qu'artiste, c'est juste un plaisir de pouvoir travailler ce matériau-là. Il y avait juste un problème. En fait, on avait décelé à l'intérieur de cette pierre une faiblesse, un défaut. Quelques artistes ont essayé de travailler le bloc, et en fait, ils ont tous lâché l'affaire. Et pendant 40 années, ce bloc est resté au loin. En fait, il était au rebut, personne n'en voulait, parce qu'il était inutile, impossibilité de faire quelque chose de bien avec. Pendant 40 ans, jusqu'au jour où Michel-Ange a vu ce bloc et a dit « Moi, je vais faire quelque chose avec ça. » Et pendant 3 années, il a travaillé ce bloc de marbre blanc de Carrare. Pendant 3 années, alors que des personnes lui disaient « Ça vaut pas le coup, arrête. Non mais Michel-Ange, il a perdu la tête. » Il a continué. Jusqu'au jour où il a pu présenter le David de Michel-Ange. 3 années. Pour quelque chose que personne ne voulait. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que les artistes de l'époque, Léonard de Vinci, Botticelli, ont fait partie d'une commission qui devait décider mais où est-ce qu'on va mettre cette statue ? Et la décision qui a été prise était on veut que cette statue soit visible de tous. On veut que tout le monde puisse en profiter. Il a été placé devant le Palazzo Vecchio, le palais de la seigneurie, afin que tout le monde puisse voir ce que Michel-Ange avait pu faire. Qu'est-ce que Christ veut pour toi ? Tu as peut-être une vie qui est brisée, tu as peut-être une vie qui ne le respecte pas, qui ne l'honore pas, mais Christ te veut. Christ veut te changer, Christ veut te façonner. Même si tout le monde te dit que tu ne vaux rien, lui, c'est celui dans le regard duquel tu as de la valeur. Il ne veut pas juste faire une belle statue, non, il veut faire une pierre vivante, une pierre qui va l'honorer et qui va glorifier sa personne. Voilà ce que Christ veut faire. Voilà ce que Christ propose à Lévi de faire dans sa vie en lui disant « Suis-moi ». Alors peut-être que vous n'êtes pas des habitués des évangiles, mais vous savez qui c'est Lévi ? C'est Matthieu. Le même Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu. Le même Matthieu qui a écrit cet évangile qui a révolutionné la vie de beaucoup de personnes, où des gens se sont convertis en disant « mais c'est ça dont j'ai besoin ». Jésus a utilisé la vie d'un paria pour se glorifier pour l'éternité. Et ce qu'il a fait pour Lévi, il veut le faire pour chacun de nous. Ce qu'il a fait pour Lévi, il veut le faire pour chacun de nous. Moi, je suis reconnaissant que Dieu n'ait pas regardé à qui j'étais, à ce que j'avais fait. Je suis reconnaissant qu'il n'ait pas abandonné. Il y avait du niveau ici. Et je suis reconnaissant qu'il m'ait demandé un jour de le suivre, malgré mes erreurs, malgré mon péché, malgré mes faiblesses, malgré mes manquements. Tout à l'heure, on a eu une superbe bonne discussion dans le groupe dans lequel j'étais. Et je sais que pour certains d'entre vous qui n'avez pas encore fait ce pas avec Christ, peut-être que vous vous dites « j'attendrai quand je serai plus mûr ». Ou « oh, tu sais, j'ai encore un petit peu de temps, je verrai avec Christ plus tard ». Christ appelle Lévi maintenant. C'est maintenant qu'il lui propose de l'accompagner, de le connaître, de le transformer, de le changer, de le façonner, de faire de lui une œuvre d'art. Ce n'est pas demain, mais c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite que l'invitation, en fait, elle se présente à vous. Si aujourd'hui, le Seigneur est en train de vous parler, s'il vous plaît, ne lui fermez pas la porte, mais accueillez-le. Vous avez remarqué où est-ce que Christ va chercher Lévi ? À son bureau des taxes. En fait, Jésus va le chercher exactement à l'endroit qui symbolise la distance de Lévi avec Dieu, à l'endroit qui symbolise le péché de Lévi. Il va le chercher exactement là où il se trouve. Jésus sait très bien qui il est. Il n'a pas besoin de... Il sait. Vous n'avez pas besoin de porter de masque en essayant de paraître mieux que ce que vous êtes. Jésus sait absolument tout de vous et il veut quand même de vous. Quelle est la réponse de Lévi ? Il se lève et il suit. Alors peut-être que vous posez la question, moi je ne comprends pas. Ce gars, il a l'argent, il a le pouvoir, il a les plaisirs du monde, et il décide de suivre Jésus. Non mais attends. S'il le fait, si j'ai bien suivi ce que tu as dit, s'il a acheté ce droit aux enchères, s'il se lève, en fait, il est en train de prendre la décision de tout abandonner. Il est en train de prendre la décision de ne plus jamais revenir en arrière. Il est en train de prendre la décision de ne plus compter sur l'argent, de ne plus compter sur sa position, mais de compter uniquement, complètement et à 100% sur Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce qu'il est prêt à le faire ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas hésité ? Parce qu'il a trouvé en Jésus-Christ ce dont il avait besoin. L'argent ne vous remplira jamais. La sexualité en dehors du mariage ne vous remplira pas non plus. En fait, il n'y a qu'une seule chose qui peut complètement vous remplir, et c'est ce que Lévi a découvert. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui et seulement lui. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile, Harry. Là, tu nous demandes de faire un choix qui est difficile, qui n'est pas évident. Je vais vous donner un encouragement. Christ propose à Lévi de le suivre. S'il le suit, ça veut dire que Jésus sera devant lui. S'il le suit, ça veut dire que Jésus saura exactement de quoi il aura besoin. S'il le suit, ça veut dire que Jésus aura vécu les difficultés que lui va pouvoir vivre. Mais il vivra aussi les mêmes victoires en Jésus-Christ. Jésus est devant nous, pour nous. Et il nous invite à le suivre. C'est lui qui prendra des balles. C'est lui qui vous aidera. C'est lui qui vous portera. Il ne vous envoie pas en disant « Allez, débrouille-toi maintenant ». Non, je suis devant toi. Et parce que c'est moi, tu as toutes les raisons de me faire confiance et de me suivre. Moi, ce que je trouve génial, c'est que la transformation, elle commence déjà à opérer. Lévi, ce qu'il fait, C'est une party. Il fait une méga fête. Il invite tous ses amis qui sont comme lui. Et à mon avis, il devait y en avoir quand même un bon paquet. Mais en fait, Lévi, il est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Il a rencontré Jésus, le créateur de la vie. Et ce qu'il veut maintenant, c'est le partager auprès de ceux qui vivent exactement la même chose que lui. Auprès de ceux qui étaient sans espoir, auprès de ceux qui avaient cette culpabilité, auprès de ceux qui ne pensaient qu'à l'argent mais qui n'étaient pas remplis. Et Lévi comprend parfaitement ce qu'ils étaient et ce qu'ils espéraient. Mais maintenant, il est en train de leur dire, moi j'ai découvert quelque chose de mieux. Et je veux que vous aussi, vous puissiez le vivre. Lévi, c'est quoi cette histoire? Il paraît que t'es parti, que t'as tout laissé, ils sont déjà en train de se battre là pour récupérer ton poste. T'inquiète pas, ils peuvent tout prendre parce que j'ai tout gagné pour Christ. Non mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Jésus, celui que tout le monde est en train de suivre, tu le connais? C'est lui qui est venu à moi. J'ai rien fait, il veut de moi. Non mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible, Lévi. Ah non, mais je te promets, viens chez moi et tu vas voir. Il va t'écouter, il va te parler. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, sa manière de te parler. T'as juste l'impression qu'enfin tu découvres ce que c'est que la vraie vie. Lévi est déjà devenu un témoin. Il n'a pas fait l'IBG. Il n'a pas lu je ne sais pas combien de bouquins. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. C'est très bien, c'est très bien. Mais là où il en est, avec ce qu'il a compris, avec ce qu'il a vécu, il veut tout simplement le témoigner. Je sais qu'en tant que jeune, des fois, vous vous dites « Ah, quand je serai plus grand, ah, quand je serai plus... » Mais vous pouvez déjà dire ce que Jésus-Christ a fait dans votre vie. Et comme pour Lévi, ça peut avoir un impact dans la vie de ceux qui sont près de vous. De voir l'authenticité de cette transformation, de ce changement de vie. Ah, les pharisiens. Ah, bon, en général, on fait bouh, bouh, bouh. Il y en a un qui suit. Alors, en général, quand les pharisiens, ils arrivent, c'est jamais bon signe. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un pharisien et pas un parisien, parce que je l'ai déjà entendu, donc un pharisien, en fait, c'est ceux qui vivent une vie, comment je pourrais dire, au-delà de la piété à laquelle on pourrait s'attendre. En fait, ce sont des gens qui... En fait, ils vont au-delà des choses qu'ils devraient faire, juste pour être sûr de bien faire les choses. Je vous donne un exemple. La loi enseignait que voilà, il ne fallait pas travailler pendant le sabbat. Alors eux, ils prenaient ça vraiment, vraiment de manière très stricte. Hein. Alors par exemple, le jour du sabbat, il ne fallait pas cracher par terre. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Ah. Ah, il a levé le doigt, mais il le baisse. Non, ok. Bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, si tu craches par terre et que tu marches dessus, tu es en train de labourer. Tu es un agriculteur. Ah oui. Attendez, j'en ai une autre. Alors, il fallait retirer tous les miroirs le jour du sabbat, parce que. Enfin, tous les trucs qui pouvaient refléter ton visage, parce que si tu avais une barbe comme moi et que tu passais devant, tu pouvais avoir la tentation de. Oh, ce poil-là, il faudrait que je le retire. Pouf. Mince, j'ai travaillé. Non mais, c'était au-delà de tout ce que... Voilà, au-delà de juste de la sagesse. Et là, on les voit, ces gars-là. Donc évidemment, pour eux, ils sont la crème de la crème. Il faut faire comme moi. Mais Jésus, qu'est-ce que tu fais avec eux, là? Non mais, c'est avec nous qu'il faudrait que tu sois. Non mais tu nous as pas remarqué là déjà là. T'as vu comment on fait les choses bien et tu préférerais être avec les collecteurs d'impôts. Le problème des pharisiens, c'est qu'ils rajoutent un poids supplémentaire sur les gens. Comment est-ce que je peux arriver à ce degré de sainteté? C'est pas possible. J'ai besoin de cracher de temps en temps quand même. Ou alors, lorsqu'on voit les pharisiens, on pourrait se dire, je suis indigne, j'y arrive pas, c'est pas possible. Jamais je... Les pharisiens se pensent être de bonnes personnes. Et Jésus-Christ va leur foutre un « in your face » en bonne et due forme. Il va les casser direct. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Dans cette simple phrase, Jésus est en train de leur montrer qui ils sont réellement. Eux, ils pensent qu'ils sont parfaits. Jésus est en train de leur dire, ouh, pas vraiment. Est-ce que vous connaissez le plus grand commandement? À un moment donné, quelqu'un a dit, c'est quoi le plus grand commandement? Alors, est-ce que vous savez? Oui, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le second qui... Les pharisiens sont déjà coupables de ces deux-là. Est-ce qu'ils aiment Dieu? Si vous regardez quelques lignes plus tard, ils veulent juste le tuer. Ils ne le reconnaissent pas, ils ne reconnaissent pas son autorité. Ils ne veulent pas avoir de relation avec lui. Est-ce qu'ils aiment leur prochain? Ouh, pas vraiment. Parce que s'ils aimaient vraiment les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie, leur seul souhait, ce serait qu'ils soient guéris. En fait, les pharisiens, ils sont un peu comme, c'est Marc Dever, un pasteur américain, qui a cette image qui je trouve magnifique, malheureusement. En fait, il dit que les pharisiens, c'est un peu comme des docteurs qui mettent des gants et qui, en fait, regardent leurs gants comme ça. Mais qui ne vont jamais dans la salle d'opération. Guérir des personnes, ça ne les intéresse pas. La seule chose qui compte pour eux, c'est « Regarde-moi et fais comme moi. » Et Jésus est en train de nous donner une leçon. Est-ce que les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie, entre guillemets, sont des pécheurs? Oui. Est-ce que les pharisiens sont de bonnes personnes? Non, ils sont eux aussi des pécheurs. Et c'est le témoignage de la Bible qui nous dit qu'il n'y a pas de juste. Tous ont péché et tous sont séparés de la gloire de Dieu. Ce ne sont pas les choses que vous avez faites qui vous permettent de gagner l'approbation de Dieu. Non, parce que ce n'est pas possible. Vous pourriez essayer de toutes vos forces, vous n'y arriveriez pas. J'ai une illustration pour ça, j'espère que ça va vous faire rire, parce que moi ça ne m'avait pas fait rire à l'époque. Lorsque j'étais étudiant, ici, à un moment donné, la jeune fille que je fréquentais voilà, a voulu me visiter ici, oui. Et elle devait passer le week-end et rentrer le lundi. Elle était chez des amis de l'autre côté du lac, et elle m'appelle en me disant « Oh, j'ai oublié mon billet à Paris ». Je ne sais pas comment je vais faire, il faut que j'aille dans une gare. T'inquiète pas. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais y aller. Ouais, mais il faut aller chercher la carte d'identité. Tu en as pour 40 minutes à aller. Ensuite, il faut que tu ailles à la gare 40 minutes. Ensuite, il faut que tu reviennes 40 minutes. T'inquiète pas. Je vais le faire. Easy. Donc, effectivement, j'y vais. Je vais chercher la carte d'identité. Je reviens et je vais en masse à la gare, et là je me dis, mais c'est pas possible, les gens ils sont tous donnés rendez-vous au même moment. Une queue hallucinante. Mais c'est pas grave, je fais ça pour ma belle. Attendez, la suite est bien aussi. Enfin, j'arrive devant le guichetier. Et là je lui dis, voilà, je viens, ma presque fiancée... Elle a oublié son billet et voilà, est-ce que je pourrais avoir son billet? J'ai son numéro de dossier, j'ai sa carte d'identité, j'ai absolument tout. Et là, le guichetier me dit, mais il est où le billet? Je lui dis, je vous ai dit, elle a oublié le billet. Ah d'accord, donc vous voulez à nouveau un billet? Je lui dis, oui, c'est ça. Mais c'est un billet qui est sorti, voilà, vous aviez un billet. Je lui dis, oui, je crois. Il fait, ah ben non, c'est pas possible. Je lui ai dit, mais comment ça, vous avez regardé sur votre ordinateur, je vous ai donné le numéro, vous la voyez. Ah mais non, parce qu'une fois que vous avez le billet papier, c'est plus possible de ressortir quoi que ce soit. Je lui ai dit, mais avec tous vos ordinateurs, Internet. C'est pas possible. Non, monsieur, c'est pas possible. Alors, par contre, si vous voulez, vous pouvez le racheter. Attendez. Vous me proposez de racheter le billet qu'on a déjà acheté. Oui, c'est ça. C'est combien ? 120 euros. Mais attendez, c'est pas ce prix-là qu'elle a payé. Oui, mais parce que depuis, ça a augmenté. Écoutez, j'ai un peu de mal à comprendre. Réexpliquez-moi. Je veux un billet que ma fiancée a oublié à Paris. Vous, ici, vous ne pouvez pas me le donner, mais je peux le racheter. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est pas possible, il doit y avoir une solution. Et là, il me dit, mais pourquoi elle a oublié son billet d'abord ? Et je lui dis, mais la question n'est pas là. C'est pas fini. À un moment donné, je me dis, bon, je suis un chevalier servant. Je commence à sortir mon portefeuille. J'avais pas trop d'argent sur le compte bancaire. Je m'étais dit, pour elle, faut, voilà. Je commence à sortir ma carte. Je dis, bon, bah, écoutez, je vais racheter le billet. Il me fait, d'accord, ok, pas de souci. Alors, le même, hein. Je fais, oui, bah oui, tant qu'à faire, on reprend le même. Et donc, il commence à tapoter, tac, 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 tac. Et ensuite, il me dit, bon, bah, écoutez, c'est bon, 120 euros, retour dimanche matin. Je fais, non, je vous ai dit lundi. Ah non, monsieur, votre billet, c'était dimanche matin. Ma femme s'était trompée de jour. Elle avait pris un billet pour le mauvais jour. En fait, tout ce que j'avais fait depuis le début, c'était juste mort. J'ai juste perdu mon temps. Ça n'a servi à rien. Ben, les pharisiens, c'est un peu comme ça. Ils croient que par leur propre justice, par les choses qu'ils vont faire, ils vont pouvoir obtenir le salut. Mais en fait, ils n'ont pas compris que non. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui vous donne l'assurance du salut. C'est Christ dans votre vie. Il n'y a qu'une seule chose qui vous assure que vous passerez l'éternité avec lui. C'est de savoir, est-ce que vous avez accepté ce Jésus dans votre vie, que vous avez accepté que lui paye pour vous, que vous avez accepté que lui aille acheter ce ticket que vous ne pouvez pas avoir pour vous. Ce n'est pas par vos forces. Ce n'est pas par les belles choses que vous pouvez faire. Mais c'est uniquement par grâce que Dieu sauve. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et c'est intéressant, hein, Matthieu, ça veut dire don de Dieu. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as compris de l'Évangile. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que tu puisses repartir avec ça. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe jusqu'où tu es allé dans ta rébellion, Jésus t'appelle à le suivre. Peu importe ce que les autres diront, ce qui sera important, ce sera ce que Jésus dira de toi. Et c'est l'invitation que Dieu est en train de te faire. Alors pose-toi cette question. Est-ce que je peux accepter ce merveilleux Dieu dans ma vie ? Avant de terminer, je voudrais vous parler de Emmanuel Vitria. Alors, je pense que l'image va arriver. Ah, il a l'air, c'est un bon petit papy. Hein. On a juste envie d'être à côté de lui avec son vélo et puis de profiter de la belle journée. Hein. En fait, Emmanuel Vitria est devenu célèbre dans les années 60, 68, si je ne dis pas de bêtises. En fait, il est né en 1920, et assez tôt, on a décelé qu'il avait une malformation cardiaque. Alors, en 1920, évidemment, la technique n'était pas aussi évoluée qu'aujourd'hui. Et en fait, il a vécu pendant des années avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. À n'importe quel moment, il pouvait mourir. Et dans les années 60, la médecine, avec les progrès qu'elle a pu faire, en fait, on a commencé les premières transplantations cardiaques. À votre avis, Lorsqu'on a proposé cette transplantation cardiaque à Emmanuel Vitria, quelle a été sa réponse? Quelle a été sa réponse? Il avait enfin, une occasion pour pouvoir vivre. En fait, il a accepté. Il n'a pas hésité. Parce qu'il était conscient de son besoin d'avoir un nouveau cœur. Et c'est ça la différence qu'il y a entre Lévi et les pharisiens. Ces deux catégories sont des catégories de pécheurs, mais Lévi, lui, reconnaît qu'il a besoin du pardon. Alors que les pharisiens, eux, ils n'estiment pas avoir besoin de demander pardon. Emmanuel Vitria a vécu pendant 19 ans après sa transplantation cardiaque. En fait, c'est devenu une star. On le voyait à la télé, à New York, je veux dire, il y a des tas de documentaires, hein, vous pouvez taper sur Internet, vous allez le trouver. Il a vécu 19 ans. Ce que Christ veut pour vous, c'est vous donner un nouveau cœur. Régler votre problème de cœur. Et avec le cœur qu'il veut vous donner, il n'y a pas de risque de rejet. Hein. C'est du 100%. C'est le cœur qui est exactement façonné pour pouvoir prendre la place de votre ancien cœur. Comme je vous ai dit, Emmanuel Vitria est devenu célèbre, mais il y a une personne qu'on a oubliée dans tout ça. En fait, c'est le gars qui est mort. Parce que pour que Emmanuel Vitria puisse vivre, il fallait que quelqu'un meure. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait sur cette croix. Afin que toi, tu puisses vivre, afin que toi, tu puisses être pardonné et avoir une véritable relation avec Dieu, il fallait que quelqu'un paye le prix que tu ne pouvais pas payer. Et c'est au travers de sa mort qu'il te donne son cœur. Pas pour vivre 19 ans, mais pour vivre pour l'éternité. Ce que Jésus aujourd'hui te dit, c'est: est-ce que tu veux que je te donne mon cœur? Je te le dis tout de suite, tu n'as rien fait pour le mériter, mais je te le donne parce que je t'aime, parce que je veux te changer. Je te veux maintenant, je te veux tel que tu es, et je veux faire de toi un chef-d'œuvre. Je vous invite à baisser vos têtes. Alors, je ne sais pas si c'est possible de couper la lumière qui m'aveugle. Hein. Alors après, maintenant, on ne voit plus rien. Merci, Seigneur. Comme j'ai dit, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu es. Moi, la seule certitude que j'ai, c'est que nous avons tous besoin de ce nouveau cœur. Certains d'entre vous, vous l'avez déjà. Et je suis heureux et je m'en réjouis. D'autres n'ont peut-être pas encore fait ce choix. Ce matin, Jésus te pose cette simple question. Est-ce que tu veux me suivre? Est-ce que tu veux recevoir ce cœur que je veux te donner? Tu veux savoir à quel point je t'aime? Regarde à la croix. Tu veux voir à quel point ton péché était affreux? Regarde à la croix. Mais sur cette croix, ce que tu verras, c'est moi, les bras grands ouverts qui te présente mon cœur. Si ce matin tu veux faire ce pas, si ce matin tu veux suivre Jésus-Christ, je t'invite à le manifester maintenant. J'invite tout simplement à te lever. Comme Lévi s'est levé, je t'invite à placer ta confiance en lui, à lui demander de t'aider, de t'accompagner. Et si tu le fais, la Bible nous dit que là-haut ce sera la fête, et c'est une fête qui nous attend. Donc je t'invite maintenant. Si tu veux prendre cette décision qui est la plus grande décision de ta vie. à te lever maintenant. Et je terminerai en priant pour toi.